Il y a quelques instants, j'évoquais Herder qui affirmait dans La Plastique, 1770-1778, que les enfants et les néophytes étaient impressionnés par le mouvement des sculptures. Et il ajoutait, vous vous souvenez, que chez tous les sauvages ou demi-sauvages, les statues sont animées, démoniques. En effet, et c'est le deuxième point de l'exposé de ce soir, la sculpture européenne va se définir par opposition aux fétiches que ramenaient les vaisseaux en nombre de plus en plus important au fur et à mesure que la colonisation du monde par les pays européens se développait. En 1760, Charles de Brosse écrit un livre très important qui s'appelle « Du culte des dieux fétiches », où en fait il veut comparer les sculptures qui viennent de Nigricie, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire les sculptures nègres, pour comprendre les dieux égyptiens et leur culte qu'ils trouvent idolâtre. De Brosse se moque du fétiche. Il le définit ainsi. C'est le premier objet matériel qu'il plaît à chaque nation et à chaque particulier de choisir et de faire consacrer en cérémonie par ses prêtres. Herder, toujours en 1778, écrit dans « Le tombeau de Winckelmann », publié en 1832, « Les billots, morceaux de bois, pierres rectangulaires ne sont pas de l'art. Ils auraient pu tenir lieu éternellement de divinité et être vénérés comme tels sans pour autant devenir un art, encore moins un bel art. Je propose qu'on laisse de côté les figures grossières qui ont pu être façonnées par les Gaulois, les enfants et les nabots. » Hein, bon, la comparaison est assez... Vous allez voir, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Comme si, parce qu'on devait définir un art d'élite, il fallait en exclure, évidemment, le monde barbare, les enfants et les handicapés, les nabots. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Les saints d'esprit, en somme. Pour ce que peut-être un jour, et on verra ça la semaine prochaine, Dubuffet appellera avec Paulhan l'art brut. Hein, pour la raison qu'ils ne sont pas de l'art. Et si on commence là où commence l'art, c'est-à-dire aux Étrusques. Bon, c'est très clair, tout ce qui est avant, tout ce qui est sur les marges, ne constitue pas de l'art pour Herder. Quatremer de Quincy, beaucoup plus fin et nuancé, comme toujours, en 1815, dans le Jupiter olympien dont je vous ai montré le frontispice tout à l'heure, se place, lui, dans une perspective évolutionniste qui sera chère au scientisme du XIXe siècle en décrivant une évolution à partir du fétiche vers la sculpture, du toucher, les ébauches grossières, comme il l'explique, au relief. Alors je cite Quatremer de Quincy. « Le toucher est celui qui donne les premières idées des objets. Les cailloux, les morceaux de bois, les coquillages furent des signes et des idoles avant qu'on sût tracer des traits ou les colorier. Le fétiche, le premier-né de la superstition, dut amener la sculpture à sa suite, ainsi que le goût du relief dans les premiers signes à figure humaine. Puis vint la couleur qui, je cite toujours Quatremer, est pour l'œil d'un sauvage ou d'un enfant l'image même de la vie. Le mélange du relief et du coloris fait une illusion complète. Le racisme s'empare vite de la question des fétiches et des sculptures qu'amènent la colonisation sur le marché européen. Parlant de la race noire, Gobineau, dans son traité sur l'inégalité des races, il reconnaît aux Noirs un don pour les arts. Mais on va voir à quel niveau. En 1853-1855, il écrit la chose suivante de cette race noire. « Elle s'enflammera et elle se passionnera. Mais pourquoi ? Pour des images ridicules, grossièrement coloriées. Elle frémira d'admiration devant un tronc de bois hideux, plus ému d'ailleurs, plus possédé mille fois par ce spectacle dégradant, que l'âme choisie de Périclès ne le fut jamais au pied du Jupiter olympien. Malgré l'historicisme du XIXe siècle et la redécouverte du Moyen-Âge, on pense tous à Viollet-le-Duc, l'opinion et même les théoriciens font souvent l'amalgame entre les productions des peuples non européens, voyez à droite, et les sculptures du Moyen-Âge, encore mal aimées. On sait que lorsque Rodin écrira son livre sur les cathédrales, il sera tout de même, pas le premier, mais il sera un de ceux qui contribueront à redécouvrir et à apprécier l'art gothique. Un exemple que je trouve assez significatif nous est donné par cette grande sculpture qui est au Louvre, que vous voyez à gauche, et qu'on appelle le Christ Courageaux. Courageaux, ça s'écrit, c'est le nom de Louis Courageaux, C-O-U-R-A-J-O-D. C'est une sculpture bourguignonne, un Christ roman, très caractéristique. Aujourd'hui, on trouve ça magnifique. 12e siècle, trouvé en Bourgogne, et présenté à l'exposition universelle de 1878 à Paris. Dans cette même exposition étaient présentés également des fétiches, des objets d'Afrique et d'Océanie. Juste après sera créé le musée d'ethnographie du Trocadéro. Louis Courageaux défend cette sculpture, ce Christ, dans la Gazette des Beaux-Arts en 1884, en parlant d'œuvre d'élite. Mais en revanche, quand on lit la presse qui rend compte de l'exposition, on est absolument sidéré. Je n'en prends qu'un exemple, c'est un plumitif qui s'appelle Pio. Enfin, il n'a pas laissé grand nom dans l'histoire, sauf que cette chose... Ben je l'ai mentionné là-dedans, hein, effectivement. Vous trouverez le Christ Courageaux parce que c'est un de mes favoris. Vous allez comprendre pourquoi. Puyo parle d'une œuvre horrible, je le cite, « à l'instar des fétiches des peuplades sauvages de l'Océanie ». Et comme on vient d'être battu par les Prussiens, on est en 1878, il y a eu la guerre de 1870, il rajoute, parce qu'il se doute bien que c'est un peu, c'est peut-être un petit peu du Nord, quoi qu'il aime bien le Nord, enfin, c'est ça, il est... Non, non, attendez, oui, pas Pio, non, Pio au contraire. Il rajoute... C'est une occupation, au sens, c'est quelque chose qui est né d'une occupation, d'un travail gothique de paysans, hein, je le cite, de la forêt noire, qui passent leurs longues soirées à tailler des magots. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, parce que les magots, c'est plutôt les sculptures, vous savez, de l'Extrême-Orient. Mais enfin, pour lui, c'est une œuvre germanique, quoi. C'est une œuvre qui n'a aucun intérêt. Alors, vous voyez, il mélange à la fois l'art médiéval qu'il rejette, l'art d'Océanie, hein, qui vient de voir et qui trouve aussi horrible que ça, et enfin l'art des Allemands, parce que la France vient d'être battue. Comme quoi l'art, évidemment, est un nœud sur le plan politique. Heureusement, au même moment, en 1851, Champfleury, le théoricien du réalisme que vous voyez en haut, qui était l'ami de Gustave Courbet, après avoir été enchanté d'avoir vu le musée Catlin, que je vous montre en bas, vous savez qu'il y a eu un épisode assez important dans l'histoire de notre rencontre avec les arts non européens, c'est en 1845, Louis-Philippe a reçu Et la France a reçu ce musée de cette artiste Kathleen, C-A-T-L-I-N, qui est le premier à avoir peint les Indiens et avoir constitué aussi, un peu avant Buffalo Bill, si vous voulez, un musée ambulant avec des gens. Alors, les Indiens sont ici aux Tuileries et ils ont pratiqué des danses rituelles que Champfleury avait particulièrement aimées. Et Champfleury développe dans les colonnes du National, du journal, une série d'articles sur les arts populaires, j'y reviendrai, où il loue les idoles de la Nouvelle-Calédonie, disant en 1869, alors ça c'est très intéressant, 1869, qu'une idole taillée dans un tronc d'arbre par des sauvages est plus près du Moïse de Michel-Ange que la plupart des statues des salons annuels. Ça a le mérite d'être clair. Hein. En 1827, le Louvre a reçu la collection d'objets ethnographiques, notamment ceux de la dramatique expédition La Pérouse de 1788. Vous savez, La Pérouse qui perd la vie dans un naufrage. C'était toujours dans l'idée qu'on allait comprendre grâce à ces objets et grâce à ces peuples qu'on estimait rester très proches des origines, les mœurs qui avaient permis l'apparition de l'art antique. Mais finalement, un rapport du 17 mars 1871 souligne que ces pièces, je cite, « sont un élément de curiosité », j'entends les pièces ethnographiques, on est au musée du Louvre, c'est le fameux musée de la marine, qui est installé là dans les salles du Louvre avec des objets qui viennent d'Océanie. Et le rapport souligne que ces pièces sont un élément de curiosité d'un ordre tout à fait secondaire dans un ensemble destiné à l'exposition des produits de l'art le plus élevé. Et c'est pourquoi en 1878 est créé le musée d'ethnographie du Trocadéro. Eh bien, on ne dira pas que je n'ai pas parlé quand même de sculpture moderne, où précisément se rendra un jour de mai ou de juin 1907 Picasso. Il appellera ça un musée affreux, mais c'est le musée où il a eu la révélation, comme il le confiera dans « Tête d'obsidienne » à Malraux en 1974. Je cite Picasso, il a eu la révélation de ce qui allait devenir les Demoiselles d'Avignon et ses sculptures à lui. Je cite Picasso brièvement, « Tous les fétiches, ils servaient à la... » C'est du Picasso réécrit par Malraux. Hein. Je ne vais pas vous faire la respiration, j'aurais du mal. « Tous les fétiches, ils servaient à la même chose. Ils étaient des armes pour aider les gens à ne plus être les sujets des esprits, à devenir indépendants, des outils. » C'est-à-dire qu'il y a un renversement absolument extraordinaire par Picasso, parce que pour lui, les idoles ne sont pas là pour... ne sont pas là pour asservir les gens qui sont devant et les soumettre au fond, mais au contraire pour les libérer. C'est-à-dire que plus vous faites des idoles... puissante, laide, et plus vous avez des armes contre les esprits, justement. Et une des forces de l'art moderne et de la sculpture moderne, ça va être de retrouver la force du fétiche. C'est-à-dire qu'il renverse ce qui était considéré comme un asservissement et ça devient, au contraire, une arme pour lutter contre toutes les formes d'asservissement. Mais c'est évidemment... Alors ça, voilà le musée du Trocadéro, hein, avec cette sculpture absolument extraordinaire que vous avez à gauche, qui est une des plus belles sculptures au monde, qui est la sculpture du dieu Gou, la sculpture de forgerons, réalisée par des forgerons sculpteurs du Mali, est aujourd'hui dans les collections du Trocadéro. Elle n'y était pas en 1878, elle y est rentrée plus tard dans les années 30. Vous la voyez d'ailleurs, cette sculpture extrême, à l'extrême gauche d'une exposition surréaliste à la galerie Pigalle, tout à fait en haut, en 1930. Souvent, ce sont les surréalistes et évidemment les cubistes, j'ai évoqué, qui ont ouvert la voie et qui ont fait que ces sculptures sont entrées au Louvre. Apollinaire l'aurait souhaité, il appelait de ses voeux l'entrée des arts africains et océaniens. Mais c'est bien sûr Gauguin, dont je vous montre ici à gauche l'idole à la coquille, qui date de 1892, et Derain, André Derain, le nu debout de 1907. Souvent, on verra que 1907, c'est une date assez charnière. Bon, il y a bien sûr les Demoiselles d'Avignon, mais pour la sculpture, il y a aussi Mayol, la Méditerranée, le nu debout de Derain. Ces deux sculptures attestent de l'introduction dans la sculpture moderne de l'influence assumée du primitivisme. Le dernier point de ma conférence de ce soir est donc la dernière autonomisation de la sculpture classique. Donc, je rappelle, une première autonomisation par rapport aux arts mécaniques et par rapport aux automates, qui étaient pourtant dans les cabinets de curiosité avec les sculptures, avec les antiques. Deuxième séparation et autonomisation par rapport à la sculpture des autres peuples, ceux qui arrivent, les fétiches, etc. Troisième autonomisation par rapport de cette sculpture classique, par rapport aux arts qu'on appellera populaires, à la suite du mot de Champfleury 1851, c'est lui qui trouve ce mot d'art populaire, et bien sûr, après la fondation des arts et traditions populaires du musée de Georges-Henri Rivière en 1937, également au musée du Trocadéro. En 1759, dans son parallèle entre la peinture et la sculpture, le comte de Caylus, un des grands antiquaires et peut-être un des premiers à avoir vraiment regardé les objets. Si vous allez à la BNF, le cabinet des médailles, beaucoup de choses viennent de Caylus. Et Caylus a été un des premiers, on les appelait les antiquaires, au sens où ils regardaient très précisément les médailles, les intailles. Et à partir des œuvres, il en déduisait une chronologie et une explication. Ceci étant, le comte de Caylus écrit quand même ceci. On voit encore dans nos villages plusieurs statues de saints exactement barbouillées de plusieurs couleurs. Les sens grossiers de nos paysans sont frappés par cet alliage et c'est le seul parti qu'on en puisse tirer. Bon, pour Caylus, la sculpture, l'art, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut rencontrer dans nos villages, et notamment on pense à toutes ces sculptures dans les églises, bien peintes, aussi bien alors en France, en Savoie, le baroque savoyard, mais on peut penser aussi toutes ces choses que Kandinsky et les gens de son groupe, du Blau Reiter, vont adorer, c'est-à-dire tout l'art bavarois, tout cet art populaire, eh bien, ne trouve pas grâce, évidemment, dans cette logique d'autonomisation d'un art qui doit évacuer tout ce qui lui paraît inférieur. Et donc, dans l'Europe entière, l'art populaire et l'art religieux est finalement réprouvé. Le Concile de Trente, il faut bien dire, et ça on remonte au XVIe siècle, avait déjà commencé la chasse à ces choses que j'adore, sans, vous aussi sans doute, aux fameuses vierges ouvrantes, que vous en avez en Bretagne, vous en avez effectivement, vous en avez aussi pas mal en Allemagne, dont on imaginait que parce qu'elles s'ouvraient, elles se fermaient, elles étaient propres à créer un effet d'idolâtrie à cause du mouvement et surtout une non-concordance entre le contenant, la Vierge, une fois que c'est fermé, et les scènes qui étaient représentées à l'intérieur. En particulier, on trouvait assez désagréable que la Vierge hébergea en son sein, par exemple, un enfer. Parce qu'il y a certaines, ce n'est pas le cas ici, mais il y a certaines vierges ouvrantes dont on voit le récit des origines jusqu'au jugement dernier. Et donc, il y a l'enfer à l'intérieur. Alors évidemment, les théologiens ne trouvaient pas que c'était une bonne idée qu'il y ait de l'enfer dans la Vierge, si vous voulez. Hein. Alors, c'est ce genre de choses. Et puis, en même temps, il y avait l'idée, on ouvrait... De même qu'ils vont faire la chasse aux processions, aux vierges de procession. Mais certains paysans et même certains curés, c'est à leur honneur quand même, vont les planquer et vont refuser de les détruire. Mais quand l'évêque passera, ben on les cachera. Il y a eu toute une sauvegarde de ce patrimoine qui était forcément... avant qu'on ait des conservateurs du patrimoine et qu'on inscrive ça à l'inventaire, Malraux a fait un énorme travail, bien, toutes ces sculptures-là ont disparu, y compris des sculptures qui peut-être ne méritaient pas de rester, mais quand même, il y a eu tellement de vierges, effectivement, de plâtre, dont on pouvait se débarrasser. Mais il y a eu quand même, il faut le reconnaître, au moment de l'exode rural, dans les années 60, en France, 70, au moment où Jean Ferrat disait que la montagne est belle et le chantait, et en même temps que la poubelle était belle aussi pour pas mal d'objets qui ont été comme ça totalement évacués. Donc, je veux dire que même l'art moderne n'a pas totalement permis de sauver ces objets. Alors, on oppose toujours la beauté classique du marbre à la polymatérialité des statues de procession. Tiens, j'ai un problème. J'ai inversé deux images, mais ça fait rien. On va revenir. Donc, on oppose la beauté classique du marbre à la polymatérialité des statues de procession et de dévotion, qui ont souvent des cheveux qu'on habille, hein. Et c'est seulement en 1881 que Huysmans, qui détestait, je le cite, les plâtres officiels au salon de 1869, applaudit à la petite danseuse de 14 ans de Degas, dont vous savez qu'elle était revêtue, on l'a changé d'ailleurs il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans, d'un tutu et d'un ruban. C'est-à-dire qu'elle était habillée, elle a choqué à l'époque parce que cette sculpture de 1881 alors je laisse de côté tous les problèmes liés à son iconographie, ça a été très, très discuté et sans doute à juste titre, notamment par nos collègues des gender studies qui ont trouvé que quand même c'était peut-être pas un faciès tout à fait respectable et que Degas, mais à mon avis on lui a fait peut-être aussi un mauvais procès, que Degas allait peut-être un peu loin dans le type populaire, un petit peu proche de presque de l'animal par l'angle facial. Il s'agissait justement de danseuses pauvres, pas de celles qui c'était les petits rats, c'était pas les danseuses étoiles. Mais enfin, je ferme la parenthèse. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais en tout cas, cette idée qu'une bonne sculpture, c'est une sculpture sans couleur, c'est une sculpture sans habits, sans autres matériaux que le marbre ou que le bronze, est rompu en brèche par cette sculpture de 1881. Et je signale aussi que plus tard, c'est pour ça que j'ai mis tout à fait à droite cette sculpture qui est au Centre Pompidou de Dubuffet. Vous voyez cette sculpture qui s'appelle le danseur. Hein, ça faisait un petit contrepoint, bienvenue à la petite danseuse. Donc le danseur de Dubuffet, qui fait partie de cette série de sculptures de l'art brut que l'on appelle les statuettes de la vie précaire. Et vous avez au centre une pièce que Dubuffet adorait, qu'il avait mis dans sa collection de l'art brut. Il s'agissait de ces masques suisses, de certaines vallées suisses qui étaient faits par les bergers, qui s'appellent les masques du Löwenstall et qui ont un pouvoir d'expression tout à fait extraordinaire. De même qu'il adorait, alors c'est peut-être pour ça que j'avais confondu, il adorait également la sculpture des diables de Bessan. Hein, peut-être certains d'entre vous sont allés à Bessan en Savoie, qui est un village, et vous avez à droite, ce sont des diables très caractéristiques, avec deux paires de cornes, et qui sont devenus une marque de fabrique. Mais c'est très curieux leur histoire, parce que c'est un diacre que le curé avait empêché de dire la messe, enfin de servir la messe, et du coup il avait plus d'argent d'entrée, enfin, il avait été licencié en quelque sorte. Du coup, il a représenté le curé en diable, hein, un peu pour se venger, exactement comme Gauguin l'avait fait, vous savez, dans la maison du jouir à Tahiti, où il avait représenté je ne sais quel curé qui était particulièrement rétrograde et arriéré. Et qui était là. Et puis ça a eu un succès. Alors, et Dubuffet, j'ai pas le temps de développer, mais Dubuffet va vraiment se poser la question. Mais le problème, c'est qu'au départ, effectivement, c'est un singulier de l'art. Donc ça va dans sa collection. Mais après, c'est devenu quelque chose que le public a beaucoup aimé. Donc il y a des gens qui se sont mis à en fabriquer. Donc c'est devenu du tourisme et des productions. Alors du coup, ça pouvait plus rentrer dans son truc. Alors il savait pas. Il hésitait, mais il avait un vrai problème de nomenclature. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quand Gauguin dit cette phrase « J'aime la Bretagne quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'y trouve le sauvage, le primitif. » Donc il fait la liaison entre ce qu'il a aimé dans les tropiques, ou ce qu'il va aimer, puisque là, en Bretagne, il n'y est pas encore parti, et l'art populaire, ce qu'il trouve dans les vieilles régions françaises, comme on dit, les campagnes, et cette sculpture-là. En 1956, Charles Sterling, celui qui a fait ce très célèbre catalogue sur la nature morte, écrira à Georges-Henri Rivière, 1956, « L'art populaire n'est pas seulement un dérivé de l'art savant, mais l'art savant y a puisé à son tour. » Et en 1975, dans « L'art populaire », magnifique livre que je vous conseille de relire, Jean Cuisenier, dans « L'art populaire », dit que l'Église est moins riche en renouvellement de la statuaire que la crèche, là je vous montre une crèche napolitaine, ou le théâtre de marionnettes. Ah oui, alors j'ai mon décalage. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce texte tellement important que néanmoins, vu l'heure, je renonce quand même à lire, mais je vous y renvoie. En plus, ça a été publié dans une petite collection, ça a été republié dans une petite collection à 1 euro. Je crois que c'est la collection Ellipse. Mais c'est très bien fait, puis j'aime bien, c'est un tout petit texte. Mais on ne peut pas s'empêcher dans cette idée que la marionnette, finalement, a été peut-être plus riche d'inventions que la sculpture des salons. Le fameux texte sur le théâtre de marionnettes de Kleist, qui date de 1810, et qui est un texte absolument lumineux, qu'on ne comprend pas, hein, d'ailleurs, à la fin, ou qu'on comprend, mais qui est tellement métaphysique, c'est assez peu de temps, d'ailleurs, avant le suicide de Kleist, mais où il montre que le mouvement des marionnettes est peut-être plus authentique que le mouvement des danseurs, et en tout cas, a fortiori, que l'imitation du mouvement qui est donnée par les sculptures. Vous vous souvenez, comme je ne le lis pas, je rappelle, c'est un danseur très célèbre, imaginez, je ne sais pas, Cunningham ou Nureyev, de l'époque, qui va tous les soirs voir un spectacle de marionnettes. Et le narrateur lui pose la question, mais enfin, vous qui dansez si gracieusement, mais qu'est-ce que vous venez voir, ces espèces de fantoches de bois, non ? Pourquoi faites-vous ça ? Et là, il y a un développement qui est absolument extraordinaire, où il montre que souvent, la conscience du mouvement entraîne le maniérisme, et que l'inconscience, l'automatisme, entraîne la grâce. Et il a une explication qui est tout à fait extraordinaire, donc je vous renvoie. Donc il y a eu toujours, vous voyez, Kleist, 1810, Liszt, Franz Liszt, qui recopie des comptines, des chansons paysannes. Champfleury, hein, qui fait tout ce recueil sur l'image populaire. Il y a eu toujours des gens qui ont été des contre-pouvoirs, hein, par rapport à cette culture qui s'est, en somme, officialisée, et qui ont chanté la marionnette, qui ont chanté l'automate, et qui ont, à mon avis, hein, permis. Alors ça, oui, ça c'est aussi. Il y a ce magnifique livre de Dumont qui date de 1955. Alors je le mentionne ici parce que pour moi, il y a là quelque chose de très proche de l'art de Tinguely. C'est le livre de Dumont sur cet objet très particulier à Tarascon. Dans la ville de Tarascon, qui est la fête de la Tarasque. La Tarasque, vous voyez, c'est une espèce de monstre. On pense à Royal de Luxe, vous savez, ces grandes machines extraordinaires. Et on sortait donc dans la ville une espèce de monstre, de dragon, qui était conduit par une jeune fille, vous voyez, une jeune vierge, qui le conduisait par la laisse. Et il y avait dedans des gens qui étaient des porteurs, mais comme ils étaient très agiles, très forts, il ne fallait pas se trouver sur leur place, hein, sur leur passage. Et ils vous fracassaient les jambes assez allègrement. Et tout le monde était très content parce que ça portait bonheur. Hein, vous aviez deux jambes en moins quasiment. Et parce que la queue était une espèce d'une poutre. Mais on voit ça encore si vous allez en Sicile, vous avez déjà vu ces processions, sauf qu'on on massacre pas les gens, mais il y a ces processions où on balance les saints, et alors faut toucher les châsses, mais parfois on prend un coup dedans, et ils s'arrangent toujours, les jeunes qui les portent, pour manifester quelque chose vis-à-vis de la mairie. Par exemple, s'il y a un chantier qui n'arrive pas assez vite, s'il y a un logement vacant et qu'on pourrait le récupérer, ben, ils viennent donner un coup de dent. Hein. Donc, à tous les coups, il y a un aspect politique de ces sculptures portées qu'on a un petit peu oublié parce qu'on a souvent relégué l'art dans les musées, ce qui est regrettable. Voilà. Alors, la semaine prochaine... parce que là, je crois qu'on a... Peut-être un temps pour une question ou deux, non ? J'ai un peu été vite, du coup. Mais excusez-moi, parce que c'était difficile de régler. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, la semaine prochaine, je voulais, dans un premier temps... En fait, c'est un livre que je suis en train d'écrire. Donc, il y en a une partie qui est déjà bien rédigée. Enfin, bien rédigée. Une partie qui est rédigée. Donc, pour Azan, hein, pour mon éditeur Azan, donc ça devrait sortir en principe à la fin de l'année prochaine, et ça s'appelle l'outre-sculpture. Mais je crois qu'ici, on ne souhaitait pas que je mette ce titre pour la conférence, parce qu'il faudrait l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, l'outre-sculpture ? Vous connaissez l'outre noir de Soulages. Bon... En fait, Soulages a expliqué que outre noir, ça veut dire en Languedoc puisqu'il est rhodèse, comme vous le savez. Outre, ça veut dire à la fois autre et ça veut dire au-delà. Et alors, ce que je veux dire, moi, avec mon idée d'outre-sculpture, c'est qu'on a des artistes aujourd'hui. J'ai cité Annette Messager, mais beaucoup d'autres artistes, Boltanski, bien sûr, aussi, Kounelis, tant d'autres, Jim Dine ou autres, qui réinvestissent dans leur sculpture, c'est-à-dire dans l'art savant, des pratiques du sculpté qui en avaient été écartées au long de cette histoire que je vous raconte, en fait, depuis le XVIIIe siècle. Et la position de la sculpture moderne, hein, c'est-à-dire, vous avez vu toujours cette exposition, il y a déjà quelques temps, il faudra en refaire une au Centre Pompidou, Istat, c'est cher, la sculpture est toujours chère, hein, parce qu'il faut la manipuler. Dali, finalement, c'était cher, mais bon, ça rapporte beaucoup. Hein, donc mais la sculpture, ça leur a rapporté beaucoup, d'après ce que je comprends, hein, vu les chiffres, on aurait dû avoir 50 centimes par entrée de visiteurs. Mais d'un autre côté, c'est pas démocratique parce qu'on ferait que des expositions qui auraient une chance de succès. Mais on peut faire Dali, mais des tas d'autres projets que j'ai eus, on a pas fait. Parce que c'est plus compliqué. La sculpture est compliquée, mais bon, on ne désespère pas. En 86, il y a eu cette exposition qui s'appelait « Qu'est-ce que la sculpture moderne ?» Vous vous souvenez ? Font la grande dernière exposition consacrée à la sculpture au Centre Pompidou. Hein, donc, au fond, à mon avis, l'outre-sculture, ça vient après. C'est-à-dire que d'abord, ça n'a pas été vu comme ça. La sculpture moderne, elle a des tensions. Si vous prenez un artiste comme Calder, vous voyez une constellation ici. Alors, Calder, c'est un ingénieur de formation. Donc, c'est certain qu'il revient, hein, aux automates. Il a travaillé là-dessus. Puis, il s'intéresse au cirque. Donc, là aussi, il est du côté d'un art marginal qui est réintégré, etc. Mais en même temps, il y a toujours chez lui l'idée de la maîtrise. C'est toujours parfait. On revient toujours au point d'équilibre. Chez Tinguely, il y aurait probablement quelque chose qui irait du côté de quelque chose d'autre, du carnaval, avec des machines qui tombent en panne. Donc la sculpture moderne est certainement ambiguë, parce que d'une certaine façon, elle renforce le pouvoir de l'esprit. Chez Duchamp, par exemple, hein, avec la roue de bicyclette, on lui dit il faut traiter de la question du mouvement. Et Duchamp dit on ne peut pas en traiter, il faut le montrer. Et donc, il montre une roue de bicyclette qui tourne. C'est une réponse très intelligente parce qu'au fond, il se moque un peu des sculpteurs qui essayent de... Hein, un peu comme Falconet, qui veut donner l'impression... Ah non, c'est raté. C'est raté. Mais ça peut être pas mal. Parce qu'on va essayer d'y retourner. Voilà. Vous voyez, Falconet qui essaye de donner l'impression du mouvement, et Diderot adore ça parce que, je n'ai pas cité Diderot, mais Diderot dit cette phrase à propos de... Voilà, il dit, dans son salon de 1763, il dit « la statue seule, isolée, solide », il parle de Galatée, « prête à se mouvoir ». C'est vrai qu'elle devient vivante. Elle devient vivante, mais elle est solide. Hein, elle est seule et isolée. Bon, nous, on peut trouver que finalement, c'est l'aspect négatif qui l'emporte. Duchamp est plus radical. Vous voulez du mouvement ? Je vous en donne, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça bouge. Hein, et après, voilà, c'est tout. Donc, on a quelque chose. Et puis, la dernière image sur laquelle je voudrais... peut-être conclure. On peut aller très vite. Voilà. Ah, Voilà, c'est donc la, c'est la, la guitare, hein, 1912, une construction cubiste de Picasso, qui est en métal et qui se doit, qui doit beaucoup, hein, à cette coprésence à Montmartre. De toute une population d'artisans, de chaudronniers, de gens qui étaient là et qui venaient dans l'atelier de Picasso. Et alors, bien sûr, il a appris aussi avec Julio González, c'est très connu, hein, le découpage, etc. Mais je crois que cette atmosphère particulière de Paris avec des artisans et les artistes qui sont attentifs à ça peut expliquer tout aussi bien les papiers collés que certaines pratiques de construction de la sculpture. Bien sûr, ils l'ont conceptualisé, mais ils sont partis aussi d'un substrat où ils n'avaient plus peut-être les œillères. Et puis, on sait bien que cette sculpture, elle est à cause de, du renversement qu'il a opéré de la vision correcte, parce que le creux, il devient un relief. Vous voyez, Louis de la guitare, il devient un relief, doit beaucoup à un masque grébeau qu'il avait et où les yeux étaient en relief et les joues en retrait. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc à la semaine prochaine où j'aurai plus de temps donc, pour répondre à vos questions et je vous dirai si l'invité surprise est venu. Merci.